The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le quatrième épisode de notre série sur Hiroshima, toujours en compagnie de l'historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Olivier Vieviorca. Hier, j'ai raconté le largage, le 6 août 1945, de la bombe atomique sur Hiroshima, vue du point de vue américain. Nous allons voir ce que les habitants d'Hiroshima ont subi ce matin-là à 8h15 et comment les autorités japonaises ont réagi ou pas. Paul Tibbets, le pilote de l'Enola Gay, a eu le temps, juste après avoir largué la bombe, de regarder derrière lui et d'apercevoir le champignon nucléaire au-dessus d'Hiroshima. Mais il ne sait rien de l'apocalypse que sa bombe a provoqué en quelques secondes.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Tout est détruit dans un rayon de 12 kilomètres. Des dizaines de milliers de personnes meurent sur le coup. Beaucoup d'autres mourront plus tard de leurs blessures ou des irradiations. D'autres survivront, mais avec des séquelles qu'ils garderont à vie. Ceux-là, les Japonais les appelleront les Hibakusha. Certains d'entre eux, qui étaient alors des enfants, se souviennent 60 ans plus tard.
Aucune sirène n'a retenti. Et alors que je discutais avec cette dame et que je m'étonnais de l'absence de sirène, il y eut un grand éclair. C'était tout blanc au centre, puis d'une couleur d'un bleu blanchâtre, légèrement argenté. Enfin, la périphérie était rouge-orangé. C'était une énorme boule de feu. Et puis, ce fut le noir total. Quand j'ai rouvert les yeux, les murs de l'école étaient tordus et la femme avec qui j'étais a été projetée du côté des rails du tramway. Elle était toute noire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en une seconde, la ville a été anéantie. On ne comprenait pas. La ville brûlait et j'ai entendu par moments des explosions, ça devait être de l'essence, accompagné du bruit du feu. Ça, je l'entendais bien.
Nous autres enfants, nous nous sommes enfuis vers un abri. Le sable incandescent me brûlait le dos et j'ai trébuché dans la cour. À ce moment-là, le ciel bleu avait déjà disparu, remplacé par un ciel gris, chargé de nuages. Et tout d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Nous étions tous trempés par cette pluie. C'était une pluie noire. Si vous regardez sur cette carte, à 2 km de l'hypocentre, tout a été brûlé. Et les blessés se sont enfuis vers les collines. Et très vite, notre quartier a été submergé par les survivants. Les rues étaient jonchées de cadavres. Et on ne pouvait plus avancer. Moi, je suis retournée vers ma maison qui était en ruine. Ma mère n'était pas là. Il n'y avait personne. J'ai pleuré en appelant « Maman ».
D'autres témoins à Hiroshima raconteront. Partout gisaient des morts. Et sous le soleil torride de l'été, ces cadavres abandonnés depuis 2 jours se décomposaient. Une puanteur atroce emplissait l'air. Des charognes de chevaux gisaient ça et là sur le dos, dressant leurs pattes raides vers le ciel. En quelques secondes, 70 000 personnes sont foudroyées, 70 000 autres personnes décéderont ensuite, soit la moitié de la population d'Hiroshima. Olivier Vieviorca, comment vont réagir les autorités locales immédiatement ?
Les autorités locales ne prennent absolument pas la mesure de la nouveauté de cette bombe. Elles appellent dès le 7 août à reprendre le travail car aucun jour ne doit être perdu. Donc,
perdu pour la guerre,
perdu pour la production de guerre. Donc, il faut que les hommes et les femmes retournent dans les usines. Donc la nouveauté, le caractère totalement inédit de cette arme absolue n'est absolument pas perçu sur le plan local. Il n'est pas non plus nécessairement perçu sur le plan national. Parce que, au fond, le Japon est assez habitué au bombardement. Le bombardement de Tokyo en mars 1945 a fait plus de 100 000 morts. Donc le caractère totalement nouveau et révolutionnaire de l'arme atomique n'est pas compris à l'époque.
Ce qui est surprenant, c'est la réaction du gouvernement japonais. On pourrait s'attendre, après le cataclysme, à ce que Tokyo décide de se rendre. En réalité, c'est un autre événement qui va faire fléchir le Japon. L'entrée en guerre de l'Union soviétique. Le 8 août, à 11h du soir, Staline déclare la guerre au Japon et le 9 août 1945, à 4h du matin, soit 3 jours après la bombe d'Hiroshima, 1,5 million de soldats soviétiques et 5 500 blindés qui ont été acheminés à travers la Sibérie envahissent la Mandchourie, occupée alors par l'armée japonaise.
Logiquement, le Japon et l'Union soviétique sont liés par un pacte de non-agression qui a été signé en avril 1941. Et il faut souligner que le Japon a scrupuleusement respecté ce pacte de non-agression. À la grande colère des Allemands, toute une partie de l'aide américaine à l'Union soviétique, ce qu'on appelle le pré-bail, transite par Vladivostok, pas loin donc des côtes japonaises, pas un convoi n'est attaqué, ce qui rend bien évidemment les Allemands fous. Et donc, les Japonais pensent qu'une entente avec Moscou est possible. Que, au fond, Moscou va pouvoir jouer un rôle de médiation entre les États-Unis et l'Empire du Soleil Levant. Les Japonais, il faut le souligner, ne croient pas à la victoire. Mais ils espèrent pouvoir négocier la paix. C'est ça qu'il faut bien souligner. Les Japonais ne sont pas idiots. Ils voient que la partie est perdue, mais ils espèrent sauver. Alors, sauver quoi? Le trône de l'empereur, le Tenno. Peut-être quelques colonies? Taïwan, la Corée, bref, il y a un espace de négociation. Et à partir du moment où Staline, eh bien, au fond, attaque, les Japonais sont absolument surpris, mais ils vont être également confrontés à l'épreuve de la réalité.
Et pourquoi Staline décide-t-il d'attaquer ?
Staline décide d'attaquer, non pas sur un coup de tête, car, vous l'avez souligné, 1,5 million d'hommes, 5 500 blindés, 3 800 avions, c'est un effort logistique colossal. Donc Staline a promis aux Américains qu'il interviendrait contre le Japon dans les 30 jours qui dans les 3 mois pardon qui suivraient la capitulation allemande. Donc Staline honore sa promesse. Autre élément, il espère également intervenir en Asie, se tailler au fond défendre les intérêts soviétiques en Asie,
prendre une part du gâteau.
Une part du gâteau, même si il faut le souligner, Staline n'est pas passionné par l'Asie. Ce qui intéresse Staline, c'est d'abord et avant tout l'Europe. Plus secondairement le Moyen-Orient et, mais loin derrière, l'Asie.
Le 9 août 1945, donc 3 jours après Hiroshima et quelques heures seulement après l'attaque soviétique, les Américains larguent sur le Japon une seconde bombe atomique au plutonium, celle-là surnommée Fat Man, cette fois sur la ville de Nagasaki, provoquant le même désastre qu'à Hiroshima. Pour quelle raison cette seconde bombe, Olivier Villorca ?
Eh bien, la seconde bombe est lancée pour montrer la détermination des États-Unis. La bombe du 6 août 1945, et c'est un élément important lorsque l'on affirme que Hiroshima a provoqué la capitulation du Japon, ça ne provoque pas la capitulation du Japon. Donc, puisque les Japonais ne veulent pas entendre raison, on envoie une seconde bombe. Et ce mécanisme, cette stratégie, elle avait été pensée par les Américains, qui comptait bombarder au fur et à mesure que les bombes atomiques seraient prêtes le Japon, jusqu'à ce qu'ils rendent les armes. Donc on est dans une stratégie qui a été pensée, qui a été préméditée, et qui ne tient pas à l'impulsion de tel ou tel chef de guerre ou aux humeurs d'Harry Truman.
Merci Olivier Viviorca. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le Japon va finir par rendre les armes. Nous entendrons l'empereur Hirohito à la radio parler pour la première fois à son peuple pour lui annoncer la capitulation. Nous verrons aussi comment le monde occidental, en 1945, réagit à la nouveauté que représente la bombe atomique. Grâce aux progrès scientifiques et techniques, c'est avant tout l'arme qui permet de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi, et ils sont peu nombreux à en avoir conscience, c'est l'arme qui peut conduire l'humanité à s'autodétruire.